Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble, sur tous les continents, avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Ce jeudi 27 juin, on va parler du débat attendu aux États-Unis, un tête-à-tête aux règles très strictes ce soir, entre Joe Biden et Donald Trump, face à face qui n'emballe pas vraiment tous les Américains.
C'est très écrit, c'est très prévisible. Au lieu de parler des vrais sujets, tout devient très politique, très personnel. Il n'y a rien qui en sort, c'est une perte de temps.
Quelles attentes chez les autres électeurs? Quels enjeux pour les deux candidats? Nous appellerons nos correspondants aux États-Unis. Nous verrons aussi dans une demi-heure que le Congrès américain et les Européens se préparent déjà à une éventuelle victoire de Donald Trump en novembre. Après le journal de midi, temps universel, notre invitée, la célèbre militante des droits de l'homme et sociologue turque Pinar Selek, à la veille d'un nouveau procès à Istanbul, le cinquième, un acharnement judiciaire, nous explique celle qui vit en France depuis 25 ans et qui a déjà été acquittée 4 fois par la justice de son pays. À midi et demi, temps universel, l'actualité africaine, nous irons à Nairobi, où la police kenyane a utilisé des balles en caoutchouc pour repousser les petits groupes de manifestants réunis ce matin dans la capitale, et ce malgré l'abandon de la loi de budget et donc des nouvelles taxes très contestées par la jeunesse. On reviendra ensuite sur cette tentative de coup d'État hier en Bolivie, et puis sur le succès des basketteurs français, 2 d'entre eux sélectionnés en première et deuxième position de la draft, dont Zachary Rizaché.
C'est ça la beauté de la draft, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à la dernière seconde, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir et quelle équipe va nous donner notre chance. Donc c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
La réaction du numéro 1 donc de la draft, le rendez-vous annuel qui permet au club de mettre la main sur de jeunes talents du basket. On vous en dit plus dans quelques minutes. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et pour commencer, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
On va commencer par l'actualité française. Nous sommes à 3 jours du premier tour des législatives et Marine Le Pen, la leader d'extrême droite, déclenche une polémique.
Oui, Marine Le Pen accusée par François Bayrou, patron du Modem et membre de la majorité présidentielle, de mettre en cause profondément la Constitution. En cause, les propos tenus par la chef de file du Rassemblement National au journal Le Télégramme. Il donne le ton de ce que serait une cohabitation avec Jordan Bardella à Matignon. Pierre-Éric Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Marine Le Pen qualifie notamment d'honorifique le titre de chef des armées du président de la République.
Je serai intransigeant mais respectueux des institutions et de la fonction de chef de l'État. C'est en ces termes que Jordan Bardella envisageait lundi devant les journalistes son rôle à Matignon, une position d'apaisement à laquelle Marine Le Pen donne un premier coup de canif en prétendant que le titre de chef des armées est simplement honorifique. Celle qui se verrait bien succéder à Emmanuel Macron en 2027 semble préparer les esprits à une cohabitation beaucoup plus dure. Marine Le Pen, qui n'est pas à une contradiction près, précise sur le réseau social X qu'elle ne remet cependant pas en cause le domaine réservé du président, mais qu'en matière d'envoi de troupes à l'étranger, le Premier ministre a le moyen de s'y opposer grâce au contrôle du budget. En clair, s'il arrive à Matignon, le jeune patron du Rassemblement National compte bien tenter de bloquer l'action d'Emmanuel Macron, notamment s'il veut intervenir militairement en Ukraine. Si nous arrivons au pouvoir, ce n'est pas pour faire semblant, abonde le vice-président du parti Sébastien Chenu. Le président de la République et les électeurs sont prévenus.
Pierre-Éric Bonneau, merci. J'ajoute cette mise au point du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il rappelle que le président est le chef des armées. À 3 jours du premier tour, peu de mouvement dans les sondages. Le Rassemblement National et ses alliés sont toujours largement en tête avec 36% des intentions de vote. Sondage Ipsos pour Le Monde. La gauche réunie au sein du nouveau Front Populaire rassemblerait 29% des voix, le camp macroniste 19,5% et LR 8%. Et puis ce soir, les représentants des 3 grands blocs, majorité présidentielle, Front populaire et extrême droite, se retrouvent pour un ultime débat télévisé. Ce sera 24 heures avant la fin de la campagne officielle fixée à vendredi minuit.
Un débat télévisé aussi aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump se retrouvent ce soir à un peu plus de 4 mois de la présidentielle.
Oui, rendez-vous est pris pour le premier débat de la campagne. Il sera suivi par des millions d'Américains sur la chaîne CNN. Pour Donald Trump, l'enjeu sera de ne pas répéter les erreurs de son dernier débat télévisé face à Joe Biden en 2020. Et pour se protéger d'une éventuelle contre-performance, l'équipe de campagne du candidat républicain laisse entendre déjà que les dés du débat de ce soir sont pipés. Explication sur place de David Thompson.
Ce sera un débat à 3 contre 1, une embuscade, répète Donald Trump depuis plusieurs jours. Le candidat républicain accuse Jack Tapper et Dana Bash, les deux journalistes de CNN chargés d'animer ce premier débat présidentiel, de se liguer contre lui en favorisant son rival Joe Biden. Biden, que Trump et ses porte-paroles accusent de dopage, ils vont jusqu'à demander un test de dépistage du président américain avant le débat. Pour éviter ce genre de dérapage, ce face-à-face télévisé de 90 minutes se déroulera sans public à Atlanta en léger différé, et CNN se réserve le droit de couper le micro d'un des candidats qui parlerait lorsque ce n'est pas son tour. Certes, sur CNN, sa bête noire réputée à gauche, Donald Trump ne joue pas à domicile, mais son équipe de campagne craint avant tout l'autodestruction de son candidat. Lors de leur dernier débat en 2020, Trump avait constamment interrompu Biden de façon agressive et avait appelé la milice des Proud Boys à se tenir prête à passer à l'action. La prestation lui avait coûté plusieurs points dans les sondages. S'il vous plaît, ne soyez pas trop vous-même, lui aurait conseillé un membre de son équipe de préparation. Il faut qu'il se montre fort, déclare un de ses proches à la presse américaine, mais les gens n'aimeront pas s'il frappe trop fort sur grand-père, sous-entendu Joe Biden. David Thompson, Miami, RFI.
La Russie, par la voix du ministre des Affaires étrangères, condamne fermement la tentative de coup d'État d'hier en Bolivie, tentative jugée inadmissible par Moscou, qui exprime son soutien indéfectible au président bolivien. Sur place à La Paz, deux chefs militaires ont été arrêtés. Ils font l'objet de poursuites pour soulèvement armé et terrorisme. Toujours des troubles au Kenya. Ce matin, la police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants qui se rassemblaient dans le centre de la capitale, Nairobi.
Les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont réunis aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, ils doivent entériner le compromis négocié ces derniers jours sur les postes stratégiques à la tête de l'UE pour les 5 prochaines années. La présidente sortante de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, doit être reconduite pour un deuxième mandat. Quant à la première ministre estonienne Kaja Kallas, elle est favorite pour devenir la prochaine responsable de la politique étrangère de l'Union européenne. Comment réagit-on dans les pays baltes? Correspondance de Marielle Vituro.
Kaja Kallas est habituée aux premières fois. En 2019, en devenant chef du gouvernement, elle est la première femme à occuper ce poste dans son pays. Cette nomination européenne est aussi inédite. C'est ce que relève Andrés Kazekamp, politologue.
C'est la première fois qu'un Européen de l'Est occupe un poste si important. C'est une avancée considérable.
Kaja Kallas est devenue une figure incontournable de la politique européenne depuis le début de la guerre russe en Ukraine. Son pays a montré l'exemple pour soutenir Kiev. Pour la Lituanienne Margarita Šešelgytė, à la tête de l'Institut de sciences politiques, cela montre un changement de position au sein de l'Union européenne.
Ce poste revient aux représentants d'un pays qui a toujours eu une position très ferme à l'égard de la Russie. C'est aussi un succès pour notre région. Peu à peu, on commence à nous écouter.
Le départ pour Bruxelles est une porte de sortie bienvenue pour Kaja Kallas. L'économie estonienne se porte mal, les mesures d'austérité sont contestées, la popularité de son gouvernement est au plus bas. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Alors que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite n'a jamais été aussi près de prendre le pouvoir en France, Volodymyr Zelensky est convaincu que le nouveau gouvernement issu des législatives maintiendra son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Il l'a dit à l'AFP, l'agence France Presse. En France, le parti d'extrême droite, le Rassemblement National, est régulièrement taxé de proximité avec le régime de Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky ne perd pas confiance. Il assure que le nouveau gouvernement français conservera son indépendance à l'égard de la Russie et qu'il restera fidèle aux valeurs européennes.
On va rester en France pour parler d'économie et de questions qui se posent puisque c'est le coup d'envoi des soldes d'été cette semaine.
Oui, c'est parti depuis hier et jusqu'au 23 juillet. Les soldes d'été ont commencé dans un climat incertain. Les commerçants espèrent compenser un début d'année maussade. Mais alors qu'en ligne, les périodes de promotion se multiplient tout au long de l'année, les Français semblent se désintéresser des périodes officielles de soldes. Illustration avec ce reportage de Nicolas Pagès.
Bon, une première journée, je trouve super calme. Donc j'espère que cet après-midi, ça va bouger un peu plus.
Constat amer de cette gérante d'une boutique de vêtements dans le 15e arrondissement de Paris, partagé par ce commerçant de l'autre côté de la rue.
Ça fait plusieurs années que les soldes, ça ne fait plus rien dire et que les gens n'attendent plus les soldes pour faire des courses. Les gens ne sont pas là et je prends le temps de discuter avec vous. Donc c'est mauvais signe. D'habitude, on n'a pas le temps de se gratter la tête.
Un argument revient sans cesse.
Bah, tout augmente, hein. La vie elle est devenue chère. Les gens ils préfèrent mettre leur argent pour partir en vacances que dans les soldes.
Dans la rue, on repère cette mère de famille qui regarde les vitrines, mais elle en restera là pour cette année.
D'habitude, je profite souvent des soldes, mais là, je me retiens quoi en fait. Cela. Il faut faire les courses pour manger avec les enfants, c'est pas évident en fait.
Et même parmi ceux qui peuvent mettre la main à la poche...
Là j'ai des chaussures qui me font des ampoules, donc il faut que je trouve une paire de chaussures.
L'achat en magasin relève souvent de l'exception.
Parce que maintenant j'achète par internet. On est chez soi, tranquille, et on n'a pas besoin de se déplacer, on peut faire ça le soir, le week-end.
D'après l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, le chiffre d'affaires du secteur a baissé d'environ 2% dans la première moitié de 2024. La météo morose et le contexte politique incertain n'ont rien arrangé.
Reportage à Paris, signé Nicolas Pagès. À l'Euro de football, organisé en Allemagne, c'est la fin de la phase des matchs de groupe. Place aux huitièmes de finale qui seront disputés entre samedi et mardi prochain. Au programme Suisse-Italie, Allemagne-Danemark, Angleterre-Slovaquie, Espagne-Géorgie, France-Belgique, Roumanie-Pays-Bas, enfin Autriche-Turquie. Enfin, c'est à Isabelle Huppert que revient le prix Lumière, prix décerné à Lyon. La 16e édition du Festival international de cinéma de Lyon commencera le 12 octobre. L'actrice et productrice française a 71 ans. Sa carrière embrasse une part immense de l'histoire du cinéma contemporain, expliquent les organisateurs du festival. Anne Cantner, c'est à vous.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure. L'actualité française durant les 20 prochaines minutes, on ira à la rencontre d'un jeune garçon de Nanterre en banlieue parisienne où un an après la mort de l'adolescent Naël lors d'un contrôle de police, rien n'a vraiment changé. On parlera aussi du succès des basketteurs français en NBA. Ils sont deux à avoir été distingués hier lors de la draft. Et d'abord, les législatives en France. Nous sommes à 3 jours du premier tour.
RFI, la France à midi.
Et les jours qui passent ne permettent pas d'apaiser les tensions à gauche au sein du nouveau Front populaire, alors que les derniers sondages projettent désormais une possible majorité absolue de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. La gauche est toujours unie, mais avance de manière un peu laborieuse et un peu chaotique parfois. Il existe des divergences sur les consignes de vote, une guerre interne est toujours en cours au sein de la France insoumise. Et puis l'interrogation persiste sur l'identité de celui ou celle qui serait Premier ministre en cas de victoire. Dernière illustration, Aurélien Devernois, l'organisation de la soirée électorale ce dimanche au soir du premier tour.
Oui, chacune des composantes du nouveau Front populaire attendra en effet les résultats du premier tour de son côté avant que tout le monde se rassemble place de la République. On a connu plus unitaire comme moment. Lors du premier débat, mardi soir, il n'y avait aussi que des insoumis sur le plateau pour soutenir Manuel Bompard. Les autres n'ont pas voulu venir, expliquait LFI. Mais côté socialiste, écologiste et communiste, on explique que tout le monde était en campagne. Il y aura-t-il plus de diversité pour le débat avec Olivier Faure ce soir ? Pas sûr. Il y a aussi eu ces tensions durant toute la campagne sur la question de l'antisémitisme avec des chartes concurrentes publiées le week-end dernier par le nouveau Front populaire tendance LFI d'un côté et la formation Place publique de Raphaël Glucksmann et le Parti communiste de l'autre.
L'autre sujet de détention récurrent, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon.
Oui, les composantes du NFP auront passé plus de temps à parler de la place du leader insoumis en cas de victoire que du programme politique. Hors de question qu'il soit Premier ministre, ont martelé depuis 2 semaines socialistes, écologistes, communistes et Place publique. Il faut une personnalité qui fasse consensus, explique Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure ou encore Fabien Roussel. Le premier groupe à l'Assemblée au sein du NFP choisira son candidat ou sa candidate, ont répliqué les insoumis. Jean-Luc Mélenchon lui-même a soufflé le chaud et le froid depuis le début de la campagne. Je ne m'exclus pas, je veux gouverner, je ne suis candidat à rien. Le leader insoumis a beaucoup fluctué.
Il y a un sujet en revanche sur lequel il est resté ferme.
Pas de pitié pour les dissidents insoumis, les Alexis Corbière, Raquel Garrido ou encore Daniel Simonet. La France insoumise a systématiquement entraîné devant les tribunaux ses anciens très proches de Jean-Luc Mélenchon. Objectif, les empêcher d'utiliser l'étiquette Nouveau Front Populaire. Son succès toutefois. Le divorce semble aussi consommé avec Clémentine Autain et surtout François Ruffin pour le leader insoumis. Le député de Picardie a choisi la rupture, mais cette bataille interne est avant tout liée à l'anticipation par les membres du NFP fait de l'équilibre des forces à gauche à l'issue des législatives. Socialistes, écologistes et communistes, encore eux, comptent bien cette fois pouvoir être devant les insoumis une fois rassemblés et donc influencer davantage la stratégie parlementaire.
Un rééquilibrage, Aurélien, qui pourrait être facilité par les consignes de vote du camp présidentiel.
Oui, car Emmanuel Macron et ses alliés se dirigent vers un ni RN ni LFI, une stratégie qui risque de faire mal aux insoumis en cas de second tour RN-LFI. La consigne présidentielle privera probablement davantage les insoumis de voix précieuses que la formation de Marine Le Pen. C'est d'ailleurs bien l'objectif de l'Élysée, avoir une gauche plus centrale, social-démocrate que radicale, afin de former le très hypothétique gouvernement d'Union nationale qu'appelle de ses voeux Emmanuel Macron. Mais pour cela, il faudrait que le RN n'obtienne pas la majorité absolue au soir du 7 juillet.
Et nouvelle chance pour chaque camp de convaincre, vous nous le disiez tout à l'heure Aurélien, le second débat télévisé, ça sera ce soir, à 3 jours donc du premier tour. Vous le savez, toute cette semaine, dans le cadre de cette campagne, RFI vous emmène auprès d'électeurs français pour mieux comprendre ce qui les a conduits à choisir tel ou tel parti. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e circonscription du Val d'Oise, en banlieue parisienne, où pour la première fois, les électeurs ont placé l'extrême droite en tête lors des européennes il y a un peu plus de 2 semaines. Notre reporter Charlotte Urien-Tomaca a suivi plusieurs candidats en campagne, à commencer par la députée sortante, alliée de la mouvance présidentielle avec son parti Horizon.
Bonjour, pour les élections législatives.
C'est la députée sortante, mais cette fois-ci, rien n'est joué pour Naïma Moutchou, prise en tenaille entre l'Union des droites et l'Union des gauches. La candidate qui se présente cette fois sous la bannière Horizon a bien du mal à convaincre, de quoi installer une triangulaire relativement incertaine.
Moi, je ne fais pas de calcul en politique, donc je fais confiance aux gens. Ce qui est certain, c'est que je ferai mon maximum pour les convaincre.
Et dans un coin ici à Franconville, où on a généralement le taux d'abstention plus important aux élections, quelles qu'elles soient, et où on a, bonjour monsieur, où on a un potentiel LFI et Rassemblement National assez fort. Voilà. C'est ici que la partie pour moi est la plus difficile.
Il est désormais loin le temps où le parti d'Édouard Philippe et ses députés soutenaient sans condition Emmanuel Macron. Pour Naïma Moutchou, l'étiquette de la majorité est embarrassante cette fois-ci.
D'abord, il y a l'image du président de la République qui suscite quand même du rejet. Moi, on me parle souvent des petites phrases, par exemple. Je ne suis pas dans la majorité présidentielle, je suis à côté.
Face à Naïma Moutchou, l'ancien patron des Républicains du Val-d'Oise, Sébastien Meurant, soutenu à la fois par le RN et par Éric Ciotti. La circonscription sera donc l'un des laboratoires pour voir si la stratégie de l'Union des droites se révèle payante. Exclu des Républicains pour son ralliement à Éric Zemmour lors de la présidentielle 2022, il vient de reprendre sa carte au parti après l'accord passé entre Jordan Bardella et Éric Ciotti.
Si le gaullisme, moi je me revendique de cette filiation-là, c'est l'indépendance de la France et c'est le métro à 18h comme dont on parlait Malraux, et bien aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Les dernières élections ont montré que le mouvement politique qui incarne plus le métro à 18h, qui défend plus le peuple français, et bien c'est le Rassemblement National. Donc moi, j'ai des différences avec le Rassemblement National, notamment sur tout ce qui est économique, mais ces différences ne sont pas fondamentales. Et la politique, c'est être capable de s'adapter aux circonstances.
Mais la candidate Horizon est aussi attaquée sur sa gauche par la prétendante du nouveau Front Populaire, Karine Lacouture, qui repart en campagne pour essayer de décrocher son premier mandat. Éliminée au second tour en 2022 face à Naïma Moutchou, cette fois-ci, elles sont bien les choses.
Il y a des gens qui étaient plutôt engagés à gauche et puis qui étaient un peu en dormance. Moi, je reçois à peu près 2 ou 3 propositions par jour, propositions d'aide.
L'accueil sur le terrain lors de ce porte-à-porte lui est plutôt favorable.
Vous avez posé toutes les questions que vous voulez.
J'en ai plein.
Ah bah alors vas-y, je vais sans doute pas toutes les réponses.
En fait, justement, je voulais vous proposer si vous souhaitez avoir un coup de main, si vous avez besoin un peu de force vive, je peux me rendre disponible.
L'issue du premier tour dimanche prochain dans la circonscription s'annonce très incertaine, un résultat qui dépendra aussi de la mobilisation électorale.
Reportage de Charlotte Urien-Tomaca dans la 4e circonscription du Val d'Oise en banlieue parisienne. Nous reviendrons sur cette campagne électorale en France à 3 jours maintenant du premier tour des législatives dans le journal de midi, temps universel.
RFI, la France à midi.
Et d'abord, on va parler encore de l'actualité française, de cet événement qui s'était produit il y a 1 an, la mort d'un adolescent tué par balle à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier. Ce tir, ainsi que les premières déclarations de la police, avaient beaucoup choqué à Nanterre et dans plusieurs villes de banlieue parisienne, en particulier chez les jeunes.
J'étais chez moi, je rentrais chez moi, on m'a appelé. Ouais, t'as pas vu ce qui s'est passé à la télé, etc. Quand on ouvre la fenêtre, on voit dehors ça brûle, etc. C'est-à-dire, on se pose des questions. Et après, quand on apprend que quelqu'un qui a 1 an de moins que moi s'est fait tuer par balle, quand même par la police, les personnes qui sont censées nous protéger, c'est à côté, ça s'est passé à côté de chez moi. On se dit, ça peut être mon petit frère. C'est vrai que c'est choquant.
Amélie Beaucourt, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage, qui avez rencontré ce jeune homme. Il s'appelle Wael, il a 19 ans aujourd'hui. Et il vous a raconté donc comment il a vécu les événements de l'année dernière.
Oui, Wael, donc il avait 18 ans quand le drame a eu lieu l'année dernière. Il fait partie de ces jeunes dont on a beaucoup parlé, mais qu'on a peu entendu finalement. Il vit dans l'un des nombreux quartiers qui se sont soulevés à Nanterre à mesure que les images de la mort de Naël circulaient sur les réseaux sociaux ou les comptes Snapchat. Il raconte la goutte de trop et la colère qui explose dans la rue.
On est descendu pour voir ce qui se passait. Il y avait des voitures qui brûlaient, il y avait ça criait, ça insultait, il y a des gens qui pleuraient, ses proches, etc. Donc c'est sûr qu'on est descendu voir ce qui se passe. Pas forcément participer, parce que nous on sait derrière ce que je casse. Je sais que c'est ma maman, mon papa qui vont repayer derrière. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils l'ont plutôt vu comme ça, parce que c'est eux, ils pensaient que c'était utile de se faire entendre en cassant, de se faire entendre en criant dans les rues, en sémant la pagaille partout. Après, faut les comprendre, ce qui vient après une information comme ça, c'est directement, c'est un sentiment de haine. Il y en a, ils ont déjà vécu des situations comme ça. Donc quand ils ont entendu la mort de Naël, ils se sont dit, ça y est, c'est la goutte de trop. Ils sont sortis, ils ont commencé à se révolter, entre guillemets.
Et à travers le décès de Naël, ce sont tous les actes de violence policière qui ressurgissent dans la tête de ces jeunes, des violences qu'ils vivent au quotidien à des degrés différents.
Oui, des violences verbales notamment. Ouais, elle me racontait avoir déjà été insultée gratuitement par un policier en attendant le bus, ou le soir en sortant avec des amis. Il décrit des contrôles au faciès incessants et une attitude provocatrice de la part des agents de police.
Ils nous insultent, en fait ils nous cherchent entre guillemets, ils nous cherchent vraiment, c'est même pas entre guillemets, ils nous cherchent, on peut considérer ça comme de l'harcèlement, on est mal vu en fait, on est mal vu quand on vient d'une cité ou quand on a la peau mate, franchement on est mal vu et ils feront tout pour chercher la petite bête même si on n'est pas là pour dégrader, on sort le week-end, on s'amuse comme tout le monde, hein. C'est énervant au bout d'un moment, nous on veut juste que tout se passe bien et que chacun fasse sa vie comme il l'a fait. Mais il y a toujours ce petit doute, cette peur d'eux, entre guillemets.
Est-ce que cette relation entre la police et les jeunes de Nanterre a changé, Amélie, depuis la mort de Naël ?
Alors apparemment oui, mais pas forcément dans le bon sens. On peut rappeler déjà le gros sentiment d'injustice ressenti lorsque le policier qui a tiré sur Naël est sorti de détention au mois de novembre et que l'enquête progresse lentement. Tout n'a fait que renforcer la méfiance, en fait, dans la tête de Wael.
Depuis le drame, ils ont renforcé leurs équipes. Il y a plus de police sur Nanterre. Mais c'est vrai que depuis ce drame, la relation est plus compliquée. Si on est un jeune aujourd'hui qui vit à Nanterre, il faut apprendre à s'adapter à la situation, à rester calme. Et même des fois, je dirais même des fois, se faire marcher dessus par eux et les laisser faire ce qu'ils veulent faire, justement, pour pas que la situation se dégénère. Ils nous insultent, faut rien faire. Et ils vont partir au bout d'un moment, quand ils voient qu'on fait rien, ils partent. Ils restent pas vraiment à nous chercher jusqu'au bout, ils partent. Normalement, théoriquement, si on part du principe qu'on fait ça, il va rien se passer, normalement.
Voilà, témoignage de Wael que vous avez rencontré à Nanterre, Amélie Beaucourt. La mère de Naël, l'adolescent qui avait été tué il y a un an, donc jour pour jour, appelle elle à une marche ce samedi à Nanterre contre l'impunité policière et contre l'impunité policière, pardon. Et pour réclamer aussi justice pour son fils. À 23 minutes à Paris, c'est l'heure de notre question d'environnement consacrée aujourd'hui à un petit animal un peu sous-estimé, parfois même dénigré, jugé un peu dégoûtant, même si les enfants l'adorent. C'est le ver de terre. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Il fascine autant qu'il fait grimacer, mais vous avez décidé de nous en parler aujourd'hui parce que les vers de terre sont essentiels pour fertiliser les sols. Ils sont indispensables.
Oui, sachez que sous nos pieds, ça grouille de vers de terre. Ils représentent jusqu'à 80% des animaux vivant dans le sol et continuellement, ils vont brasser la terre et recycler des nutriments en mangeant des débris végétaux et des petits bouts de feuilles mortes. Et dans un sol à vers de terre, l'ensemble du sol repasse par le tube digestif des vers de terre tous les 3 à 5 ans. Ce qui va avoir plusieurs conséquences, explique Marc-André Seulos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
Dans les sols où ils sont présents, c'est eux qui vont retourner le sol, c'est-à-dire remonter la fertilité qui est au fond et qui est en permanence entraînée par l'eau de pluie, ils la remontent en surface. En faisant ça, ils font des galeries où peut pénétrer l'eau, donc ils rendent le sol plus pénétrable à l'eau et ils contribuent à la capacité de stockage d'eau du sol.
Donc au final, c'est eux qui apportent la fertilité au sol et lui permettent de stocker l'eau, ce qui va permettre de nourrir les plantes que nous mangeons ou qui nourrissent les animaux que nous mangeons.
On voit bien, Jeanne, que les vers de terre sont très importants pour notre système alimentaire et pourtant, ils sont menacés par nous, par l'espèce humaine.
Oui, première menace, la disette. Car les engrais chimiques ont remplacé le fumier et les champs cultivés n'ont plus de couvert végétal dans l'agriculture conventionnelle. Conséquence, plus de matière organique pour la terre et plus rien à manger pour les vers de terre. Ensuite vient le labour, les charrues hachent le sol, elles font littéralement de la pâtée de vers de terre. Et puis bien sûr, il y a les pesticides qui tuent les insectes ravageurs, mais aussi tout le reste, y compris les vers de terre. Dans une prairie naturelle que l'homme laisse tranquille, il peut y avoir 3 à 4 tonnes de vers de terre par hectare. Ils ne sont plus qu'environ une tonne dans un sol cultivé et quasi absent dans les sols dégradés par les produits chimiques.
Et pour les sauver, Jeanne, la Ligue de protection des vers de terre vient d'être créée en France.
Oui, et c'est très sérieux. Hein. L'objectif, c'est de faire inscrire les vers de terre dans le droit. Écoutez Christophe Gatineau, lombricologue, ça ne s'invente pas, qui est à l'origine de cette initiative.
À partir du moment où on inclut les vers de terre dans notre environnement juridique, eh bien, ça veut dire que, au niveau des pesticides, au niveau des engrais chimiques, au niveau des techniques agricoles, en fin de compte, la loi obligerait forcément à évaluer l'impact de ces produits ou de ces techniques sur les vers de terre.
Voilà, comme c'est le cas hein, pour les abeilles par exemple, avant d'autoriser un pesticide, on le teste pour vérifier que les abeilles, ces pollinisatrices essentielles, ne sont pas touchées. Et pour l'instant donc, rien pour les vers de terre, malgré leur travail du sol essentiel lui aussi. Cléopâtre elle-même en avait conscience. Elle avait décidé de rendre cet animal sacré, il était interdit de le toucher.
Preuve qu'on avait compris depuis très longtemps à quel point les vers de terre étaient utiles.
Oui. Il faut leur rendre justice.
Mais à la nature. Merci Jeanne Richard, c'était notre question d'environnement du jour. On va parler de basket à présent parce que la France est entrée cette nuit dans l'histoire de la draft en NBA. La draft, plus précisément, la porte d'entrée pour des dizaines de jeunes joueurs qui rêvent de faire partie de la Ligue américaine de basket. Elle est censée être la meilleure au monde. Un an après la place de numéro 1 attribuée à Victor Wembanyama, joueur des San Antonio Spurs, la France fait coup double cette année. Bonjour Sofiane Amazon.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette fois, c'est le jeune Zachary Risaché qui arrache cette place de numéro 1.
Mais c'était attendu, Anne. L'ailier de 2m08 a explosé aux yeux du grand public du côté de Bourg-en-Bresse, prêté par l'ASVEL. C'est le club de Villeurbanne, pas très loin. Le joueur de 19 ans était élu cette année meilleur espoir de l'Eurocoupe. C'est en avril que le fils de Stéphane Risaché, ancien basketteur tricolore, et lui, médaillé d'argent aux Jeux de Sydney en Australie, c'était en 2000, décide de se présenter à la draft. Les experts lui promettaient le top 5. Le voilà, choix numéro 1 et drafté du côté des Hawks d'Atlanta. Sa réaction au micro de notre correspondant Théo Quintard.
J'avais pas une surprise parce que j'avais fait des workouts à Atlanta et ça s'était bien passé. Donc j'étais préparé à être sélectionné par cette équipe. J'essayais de me préparer à toute éventualité parce que c'est ça la beauté de la draft, c'est qu'on sait pas jusqu'à la dernière seconde, on sait pas où est-ce qu'on va atterrir et quelle équipe va nous donner notre chance. Donc c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
Et Zachary Risaché qui avait d'ailleurs effectué un stage d'été du côté d'Atlanta il y a 2 ans. C'est un joli clin d'œil.
La France qui place d'ailleurs 2 autres joueurs dans le top 10. Alexandre Sarr à la 2e place et Tidjane Salin au 6e rang.
Oui, c'est tout simplement historique. Jamais un autre pays que les États-Unis n'avait placé de joueurs de la même nationalité parmi les 10 premiers choix de la draft, c'est-à-dire 3 Français parmi les 10 premiers. Le vivier tricolore qui semble être de plus en plus apprécié et qui profite peut-être cette année d'une concurrence moindre. La sélection est dense, mais aucun gros nom n'est venu éclater aux yeux des franchises. Tidjane Salin atterrit donc au Charlotte Hornets, franchise où est passé un autre Français plus établi, Nicolas Batum. Alexandre Sarr, deuxième, quant à lui, rejoint les Wizards de Washington. Sarr, un profil original qui jouait jusque-là du côté de l'Australie, analysé par le spécialiste NBA du journal L'Équipe, Samy Sadik.
Alexandre Sarr, c'est le 4e Français à passer par ce programme en NBL pour être exposé avant d'atteindre la NBA. Et lui, en plus, a vraiment eu une route unique un petit peu vers la NBA puisqu'il a quitté la France très tôt, vers 13 ou 14 ans, pour aller au centre de formation du Real Madrid, qui est un des centres de formation les plus réputés en Europe. Ensuite, il est parti aux États-Unis dans une ligue qui s'appelait Overtime Elite, également une de ces nouvelles ligues un petit peu qui se présentent pour former des joueurs à la NBA. Et enfin, sa dernière saison, il a décidé de la faire plutôt en Australie, où le style de jeu se rapproche notamment beaucoup de la NBA, ça va vite, il y a beaucoup de tirs à 3 points, il y a également des joueurs assez athlétiques. Donc en fait, de plus en plus, en fait, chaque joueur peut créer son propre chemin pour aller en NBA maintenant.
Alors comment est-ce qu'on peut expliquer le nouveau succès français du côté de la NBA?
C'est vrai que les Frenchies ont la cote depuis maintenant plusieurs années. Ça s'est confirmé il y a un an, vous le disiez en préambule, la star Victor Wembanyama qui a fait tourner la tête de toutes les franchises de NBA. Alors ce qui fonctionne bien en France, c'est évident, c'est la formation. Hein. Faire briller de nouveaux talents, les faire jouer à haut niveau pour se présenter à la draft avec plus de chances de bien y figurer. À l'instar du football, les clubs français donnent leur chance rapidement aux jeunes et participent à leur explosion. La preuve, un autre Français fait partie des heureux élus, Pacôme Dadier, et choisi lui en 25e position. Première fois que la France place 4 joueurs tricolores au premier tour de la draft.
Sofiane Amazian, donc, pour nous parler de ce succès français en NBA. Merci à tous d'être avec nous. On se retrouve dans quelques instants.